Voici donc mon exposé sur la nouvelle société que la Renaissance a engendrée petit à petit. Comme nous l'avons vu le mois dernier, les 15 et 16e siècles virent un réel changement dans les mentalités. Les hommes devinrent de plus en plus curieux en des matières qui ne sont pas exclusivement théologiques ou techniques. Cela n'implique pas que l'époque médiévale ait été stérile en découvertes. On peut citer le mode d'attelage des bœufs, le gouvernail des bateaux, l'horloge à poids, le vitrail, l'évolution de l'architecture du roman au baroque en passant par l'ogival et les armes à feu. Mais le domaine purement scientifique était plutôt réservé à la théologie, les grandes découvertes restant dans le domaine pratique. Les choses changèrent au XVe siècle, en particulier avec l'arrivée de l'imprimerie. Il y eut d'abord l'invention du livre, qui remplaça des rouleaux difficiles à manier, puis l'imprimerie proprement dite. Le premier livre imprimé date de 1456. Le savoir ne se communiquait plus au moyen de manuscrits richement ornés, de véritables œuvres d'art, mais difficiles à conserver et difficiles à consulter, conservés avec soin dans quelques rares bibliothèques. L'imprimerie favorisa la diffusion du savoir et du désir de connaître dans tous les domaines, dans les domaines les plus variés. Deux domaines se trouvèrent privilégiés, les mathématiques et la médecine, avec parfois de curieuses conséquences. Paracelse, un célèbre médecin, allait voir un malade, mais sachant que ce malade avait reçu le viatique, il lui déclara « Puisque vous avez un autre médecin, moi je me retire. » Armé de son orgueil, Satan ne manque pas une occasion de nous faire délirer. L'esprit de la Renaissance se manifeste donc par une insatiable curiosité. En naissant, le jeune Pantagruel demandait à boire, mais il s'agissait autant de savoir que de vin frais. Rabelais nous décrit son précepteur continuant à l'air saigné tandis qu'il était sur la chaise percée. Il y eut alors beaucoup d'hommes d'une érudition exceptionnelle qui cherchaient à fonder leurs convictions sur un raisonnement autonome. Gargantua rappelle à son fils Pantagruel que pour être élevé comme les hommes de son temps, il lui faut apprendre les sciences, les langues orientales, l'hébreu, le chaldaïque, la médecine arabe et la médecine grecque, etc. Il ne s'agit plus de se limiter à la foi et à ce qui s'y rapporte. Cela aura pour résultat de la faire reléguer au second plan, puis de la faire considérer comme un domaine secondaire, voire infantile. Un des savants les plus célèbres était Pic de la Mirandole, qui se vantait de pouvoir parler des omnires sibilli, de toutes choses connaissables. Un plaisantin ajouta, et même de quelques autres. La modestie n'était plus guère à la mode. Une deuxième caractéristique est la recherche de l'originalité. Chacun entend fixer sa science et sa foi selon ses tendances personnelles, ce qui ne facilite pas le rôle des directeurs spirituels, mais qui permet de mettre en valeur des hommes comme saint Thomas More. Cet homme remarquable joignait l'humour à une foi inébranlable. Il est l'auteur d'une remarquable prière qui commence par « Mon Dieu, donnez-moi une bonne digestion, mais aussi quelque chose à digérer », et qui continue « Donnez-moi une âme sainte qui conserve devant vous, devant sa vue, ce qui est bon, afin que, voyant le péché, elle ne s'épouvante pas, mais trouve le moyen de redresser la situation. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. » Cette fois, la fin mérite d'être citée, la fin de cette prière. « Seigneur, donnez-moi le sens de l'humour. » Donnez-moi la grâce de pouvoir discerner une plaisanterie pour que je tire quelque bonheur de la vie et que j'en fasse part aux autres. C'est un modèle de saint humour britannique. Cet homme sut garder son humour jusqu'à la fin de sa vie. Condamné à mort pour avoir refusé d'abjurer le catholicisme, il a dit au bourreau qui l'avait aidé à monter sur son échafaud « Merci de m'avoir aidé à monter, mais pour descendre, ne vous faites pas de soucis, je me débrouillerai tout seul. » Gardez le sourire jusqu'au bout est merveilleux. La troisième caractéristique de la Renaissance est l'amour de l'Antiquité dont j'ai déjà parlé, un amour qui confine à l'idolâtrie, qui fait mépriser ce qui nous a précédés en toute injustice et ignorance, un dédain d'hier pour un culte d'avant-hier. On se moque de Louis-Philippe pour exalter Robespierre. Le quatrième caractère est donc ce dédain du passé proche, une habitude qui revient périodiquement, qui ne s'est fait traiter de ringard. Aujourd'hui, on ne stigmatise plus le Moyen-Âge, mais Jurassic Park, dans lequel me placent volontiers mes enfants et mes petits-enfants. Il faudrait répéter et méditer ces sages paroles, nous sommes des nains sur les épaules de géants. le progrès n'est pas toujours évident. J'ai visité le château de Blois. Il y a une aile Louis XII, délicieuse fantaisie de gothique flamboyant. Une aile François Ier, majestueuse, inspirée de l'art italien à la décoration exubérante. Et puis, une aile Gaston d'Orléans, du classique banal à fleurette. Par bonheur, Gaston fut ruiné, car il voulait tout casser. La cinquième caractéristique est la volonté de se soustraire à l'enseignement ecclésiastique. Le grand fait du XVIe siècle est la sécularisation de la morale qui autrefois se déduisait de l'examen des cas de conscience. Cas par cas, pourrait-on dire, avec simplement une nette distinction des vertus et des vices. Un professeur de Sorbonne nommé Ramu préconisait de revenir à la liberté de jugement qu'il attribue à Socrate. Mais le Christ nous a apporté, disons, un éclairage plus complet. Une liberté de jugement sans recours à la raison, au sens où l'entendait saint Thomas d'Aquin, conduit tout droit à la théorie du gendaire. Ce n'est qu'au nom de notre Seigneur que l'on peut demander un sacrifice à quelqu'un et le rendre possible. Les grands hommes de l'Antiquité étaient présentés comme des types de perfection, mais il faut se défendre des modèles trop héroïques. Montaigne lui-même conseillait de faire tout à petite dose, sans grandeur, sans héroïsme. Il faut devenir semblable à de petits enfants, disait notre Seigneur. Le sixième et dernier caractère de ce siècle est l'indépendance, la soif d'indépendance. Frère Jean des Entomeurs, cité par Rabelais, disait qu'un mur est construit pour donner envie de l'escalader. Les hommes de l'époque agissaient comme des écoliers en vacances, cherchant à s'affranchir. C'est oublier facilement que l'anarchie ne mène à rien et que le chaos dans lequel était le monde avant la création était parfaitement stérile. Les obligations, celles de l'Église comme celles des autres autorités, fussent-elles maçonniques, sont un moyen de développer en nous une force de caractère. La combustion d'un carburant à l'air libre ne sert à rien, mais enfermée dans un cylindre, elle fait fonctionner le moteur du véhicule. Il s'agit là d'un problème réel. La règle est indispensable, mais ne reste qu'une aide, un moyen, un peu comme la ligne continue des routes. Il y a toujours le risque d'être trop strict vis-à-vis de leurs exigences. On en voit un écho de nos jours. Après le cri de 1968, il est interdit d'interdire, on se trouve un demi-siècle plus tard, empêtré dans un fatras de lois sans nombre et souvent absurdes. Le code du travail aurait plusieurs centaines de pages. On ne sait plus où donner le titre. On ne sait plus où donner de la tête, pardon. Une maison, une voiture, voire une machine à laver sont soumis à des normes multiples, parfois contradictoires, qui offrent aux avocats des motifs de plaidoirie interminables. Cependant, les règles sont bien utiles pour atteindre le but. Mais quel but ? Saint Augustin a dit « Aime et fais ce que tu voudras ». Encore faut-il savoir quoi et qui aimer. Revenons à l'Évangile. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, tout ton prochain comme toi-même. Le problème est donc d'aimer vraiment, sans égoïsme, dans le cadre de son devoir d'État. Mais comment l'atteindre si nous négligeons notre Créateur ? À son début, la Renaissance se manifeste comme une révolte contre un carcan sorbonnard trop étroit qui se complaisait dans des arguties théologiques, des discussions byzantines. Cette révolte n'était pas totalement injustifiée. Il en est de toutes les règles trop strictes, comme plus tard la bataille d'Hernani ou le tumulte du sacre du printemps. Celle du XVe siècle, malheureusement, fit éclore Luther, Calvin, les jansénistes, les mormons et bien d'autres. Certains allèrent jusqu'à penser que, la curiosité étant un vilain défaut, il convenait de vilipender les mathématiques et les progrès scientifiques et techniques. Je me souviens avoir fait remarquer à un tel orateur qu'il était malgré tout bien aise de parler dans une salle éclairée à l'électricité, chauffée au gaz, et qu'il était arrivé en métro après être descendu de son TGV. La science est un moyen magnifique qui rend l'homme de plus en plus puissant, mais au service de qui et de quoi ? De l'argent, du mensonge, de la soif du pouvoir ? Nous vivons à une époque, nous vivons, a dit Jean-Paul II selon un témoin, la plus grande tentation depuis la naissance de l'Église, celle de l'Éden. Vous serez comme des dieux décidant du bien et du mal. Nous sommes devenus des avions sans pilote, distribuant aussi bien des bombes que des médicaments. Nous savons extraire des fœtus du sein de leur mère, mais ou pour les soigner ou pour les découper en morceaux. Nous sommes maîtres de l'atome au cœur de la matière, mais pour produire de l'énergie ou en faire des bombes dévastatrices. La Renaissance a glorifié le pouvoir de l'homme sur la création, elle a su engendrer Pasteur et le professeur Lejeune, mais aussi Robespierre, Hitler et Staline. Il nous faut revenir à une vraie connaissance du bien et du mal, celle révélée par notre Rédempteur. Revenons à la vraie sagesse, celle du Saint-Esprit. Sinon, nous nous dirigeons tout droit vers la tour de Babel. Voilà, j'espère que 2016 sera un peu meilleur que 2015, qui a eu bien des catastrophes. Et maintenant, à bientôt. Excusez-moi encore de ma voix. Bonne année.